Cher Jérôme, un grand merci pour cette introduction. Chère Madame de Maure, cher Monsieur le Président de Chambre, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Un grand merci pour l'invitation qui m'a été faite de vous présenter la boucle administrative, un aspect donc de cette réforme récente des compétences du Conseil d'État qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. La loi du 20 janvier 2014 introduit donc dans la boîte à outils du Conseil d'État la boucle administrative dont le principe a pu être résumé simplement. Il porte sur la possibilité pour l'autorité publique de corriger l'illégalité en prenant un nouvel acte. Le Conseil d'État n'annulera plus l'acte illégal attaqué nécessairement automatiquement, mais proposera à l'autorité d'améliorer l'acte dans un délai déterminé. Le juge pourra ainsi prendre la décision finale, éventuellement si l'illégalité n'a pas été corrigée par ce nouvel acte, l'acte initial sera annulé. Donc comme le mécanisme de la boucle administrative nous provient des Pays-Bas, Madame de Moor vous expliquera le système hollandais. Mais pour l'introduire, je vais avoir une tâche un peu plus limitée qui est de vous parler donc de l'efficacité et la finalité des décisions du juge administratif dans la réforme de 2014. Donc je prendrai comme fil conducteur l'efficacité et la finalité aussi bien dans le contexte qui a présagé à la réforme dans le mécanisme tel qu'il a été mis en place, mais je m'interrogerai sur la possibilité de réellement transplanter un système efficace et définitif d'un ordre juridique à un autre, et ce qui me permettra peut-être de poser une question un peu plus large, de savoir quel est le type de justice administrative que l'on souhaite dans une société qui devient de plus en plus complexe. Donc le contexte de la réforme est certainement empreint d'efficacité et de finalité comme deux objectifs principaux. Lorsqu'on lit la proposition de loi et le projet de loi, les textes reviennent sur l'affaire du tram de Wijnegem que M. Soyer vient de vous indiquer. Comme il l'a précisé, après 3 ans et 10 mois, le Conseil d'État a annulé un permis d'urbanisme pour une raison d'une violation ou de non-respect d'une étude d'incidence qui aurait dû avoir lieu. Le projet était assez important, il portait sur 45 millions d'euros. Et alors que le Conseil d'État va annuler l'intégralité du permis, seulement une partie de ce permis était réellement contestée par les requérants, qui par ailleurs ne s'estimaient pas nécessairement être à l'encontre du projet pour le surplus. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que certes, le permis d'urbanisme a été annulé pour raison de violation des règles en matière d'études d'incidence, mais il y a un considérant qui est intéressant dans l'arrêt du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État précise qu'il ne souhaite pas se substituer à la décision de l'administration compétente en matière de permis d'urbanisme, mais que malgré cette volonté de ne pas se substituer, il souhaite vérifier si l'administration a correctement fait application des critères qui lui permettaient l'exemption, d'utiliser une exemption de l'étude d'incidence. Et donc c'est la vérification de cette correcte application de la loi qui a permis au Conseil d'État de conclure que la loi avait été violée. D'autres affaires avaient été qualifiées d'absurdes par le monde politique pour les résultats un peu biscornus qu'elles pouvaient produire. Et donc en droit flamand, le décret du 6 juillet 2012 a décidé d'introduire dans le cadre du Ravensbrück-Huningstwisting une procédure semblable à la boucle administrative hollandaise. Et l'idée générale qui se profilait derrière ces critiques des affaires relativement absurdes telles celles du tram de Wijnegem, c'est que le Conseil d'État s'était montré trop légaliste. Il aurait dû chercher des solutions plutôt que de prendre la décision d'annuler le permis d'urbanisme. Néanmoins, ces affaires qui sont finalement assez anecdotiques ne sont pas simplement un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Elles ont réussi à provoquer et déclencher une réforme des compétences du Conseil d'État parce qu'il y avait eu différentes réflexions sur une réforme beaucoup plus ambitieuse que simplement l'introduction d'une boucle administrative dans la juridiction administrative. Notamment, il y avait eu un souhait du Conseil d'État de voir augmenter ses compétences de manière à pouvoir trancher définitivement et rapidement autour d'une seule procédure, d'une procédure unique les litiges qui lui étaient soumis, et une autre réflexion sur la réforme de la juridiction administrative s'était enclenchée par les réflexions de la région flamande sur l'accélération des projets d'infrastructures socialement importants. Et à cette occasion, un professeur de l'université de Maastricht avait été entendu, le professeur Pax, qui avait mené une recherche de droit comparé sur les méthodes nécessaires pour l'accélération des projets d'infrastructures socialement importantes. Et il avait notamment mentionné la boucle administrative comme une solution, mais il avait proposé aussi beaucoup d'autres aspects de la relation entre l'administré et l'administration qui devait sans doute être réfléchie. Et la boucle administrative, finalement, ne faisait partie que petite partie de ses propositions. Madame Bex aussi, dans son rapport au nom du gouvernement flamand, toujours dans le même projet, avait mis en évidence l'intérêt d'introduire la boucle administrative et de changer le rôle du juge aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau régional flamand. Et donc, les notions d'efficacité et de finalité ont déjà été discutées dans d'autres forums avant de réellement aboutir aux discussions qui ont présidé à la réforme du Conseil d'État. Et lorsqu'on lit les travaux préparatoires de la réforme de 2014, on voit que l'idée d'optimaliser le fonctionnement du Conseil d'État et d'enrichir sa palette de compétences a été mise en avant. L'idée, c'est que le Conseil d'État doit disposer de plus de compétences que simplement une binarité entre l'annulation de l'acte ou le rejet de la requête. Et donc l'idée, c'est que les irrégularités ne vont plus automatiquement engendrer l'annulation de l'acte. Il y a différentes dispositions dans la réforme qui permettent d'éviter cette automaticité, et la boucle administrative est l'une de ces dispositions. Lorsqu'on regarde la loi les travaux préparatoires de la loi, il est très clairement mis en évidence qu'il faut que le Conseil d'État soit à même d'affiner son contrôle juridictionnel de manière à ce qu'il puisse se concentrer sur les moyens de fond plutôt que les irrégularités qui seraient plus formalistes. Et les travaux préparatoires mettent en avant le fait qu'il ne faut pas toucher trop au droit d'accès du justiciable au Conseil d'État, qu'il faut peut-être trouver un équilibre entre les deux, même si cette question d'équilibre mentionnée n'est pas nécessairement discutée dans toutes ses répercussions dans la suite des travaux préparatoires. Alors, quelles sont les conditions pour mettre en œuvre la boucle administrative? Tout d'abord, il faut que la correction des vices de l'acte n'ait pas de conséquences sur le contenu de l'acte qui est vicié. Et c'est pour des motifs d'effectivité de la procédure. La boucle administrative ne peut pas être mise en œuvre si la correction de l'acte demande plus de 3 mois. Alors il y a eu un assouplissement de ce délai de 3 mois par des considérations de délai raisonnable qui peuvent être prises en compte pour assouplir le délai de 3 mois. Mais l'idée, c'est toujours l'efficacité de la procédure administrative. Il ne faut pas prolonger la contestation de manière excessive. La boucle administrative ne peut être mise en œuvre qu'avec une collaboration de la part de l'administration. Et de nouveau, si on a une administration qui se montre résistante par rapport à l'idée de corriger son acte, on ne va pas pouvoir donner suite de manière définitive et efficace à l'application de la boucle administrative. Il va falloir que l'administration ait les pouvoirs suffisants pour corriger l'acte de nouveau, pour éviter des complexités de procédure. Et finalement, la correction du vice doit mettre fin définitivement à la procédure en cours, ce qui veut dire que le Conseil d'État va devoir avoir examiné tous les moyens de fond qui pourraient être soulevés par rapport à l'acte pour s'assurer qu'une fois que le vice a été corrigé, l'acte puisse être maintenu, si l'administration a bien corrigé l'acte comme il lui a été recommandé de le faire. De sorte donc que l'application de la boucle administrative mette fin définitivement à la procédure en cours. Donc on voit que cette procédure est assez structuré, il va y avoir une décision d'utiliser la boucle administrative prise à un moment donné par le Conseil d'État, soit l'auditeur, soit la Chambre qui va soulever l'application de la boucle administrative. Les parties vont pouvoir émettre leurs observations. Un arrêt interlocutoire va devoir être pris, et là ça va sans doute être toute la subtilité de la procédure et sans doute là où son application pratique va être la plus complexe, c'est que le Conseil d'État va devoir arriver à formuler ses corrections, ses suggestions de correction de manière suffisamment précise pour que l'administration puisse savoir ce qu'elle doit corriger, mais en même temps il faudra sans doute pouvoir respecter les pouvoirs propres de l'administration en termes de décision. Il faudra après que l'administration exécute l'arrêt, et en corrigeant l'acte, l'administration va communiquer, notifier cette correction au Conseil d'État. Il y aura une possibilité pour les parties d'émettre leur observation sur la manière dont le vice a été corrigé. Et après, il y aura l'arrêt final du Conseil d'État qui devient de nouveau une décision binaire entre l'annulation ou au contraire le rejet de la requête. Donc il y a des éléments d'efficacité qui sont pris en compte dans ces conditions et cette procédure, notamment le délai de 3 mois avec son petit assouplissement possible, la nécessité d'avoir une collaboration de l'administration, et la finalité mise un terme au litige également pris en compte. Néanmoins, les rapports qui pourraient se nouer avec une indemnisation ou d'autres mécanismes qui sont également introduits dans la réforme n'apparaissent pas clairement, en tout cas pas pour moi à ce stade. Alors il y a une évaluation qui peut être faite a priori comme ça du texte de la loi sans qu'il y ait encore eu d'application, donc il faudra voir comment affiner cette évaluation, mais visiblement seulement des vices minimes pourront être corrigés par l'application de la boucle administrative, parce que d'ailleurs les travaux préparatoires le reconnaissent, des affaires qui seraient du type de celles du tram de Weilegem ne pourraient pas remplir les différentes conditions qui sont mentionnées ici, notamment en termes de délai. S'il fallait refaire l'étude d'incidence, le délai de 3 mois serait ne serait pas suffisant, et il y aurait sans doute eu des conséquences sur le contenu de l'acte, de telle sorte que cette affaire-là, qui est censée être le point de départ de la réforme, nous disent en tout cas les textes, des travaux préparatoires, n'entrerait pas en compte dans l'application de la boucle administrative. Ensuite, il va y avoir toutes ces difficultés pratiques, je suppose, de rédaction de l'arrêt interlocutoire. Et il faudra voir comment le Conseil d'État va pouvoir trouver les compétences nécessaires et sans doute un peu expérimenter sur la manière de rédiger les arrêts. Je pense qu'en Hollande aussi, pendant un certain temps, il y a eu une phase d'expérimentation qui a eu lieu. Je ne sais pas comment le Conseil d'État a déjà peut-être réfléchi sur la manière de rédiger ces arrêts, et quels sont les problèmes particuliers qu'il pourrait avoir déjà résolus, ou en tout cas avoir défriché. Alors il y a aussi, en termes d'efficacité, un problème potentiel d'usage des ressources humaines, parce que, comme je l'ai indiqué, il va falloir avoir procédé à un examen de tous les moyens de fond avant de procéder à la boucle administrative, ce qui va donc sans doute demander du temps, et les travaux préparatoires reconnaissent d'ailleurs cette pression possible en moyens humains, en disant voilà, normalement la réforme qui est mise en place devrait aider à améliorer le fonctionnement du Conseil d'État, notamment dans le traitement des affaires. Donc on va garder le cadre qui a été promis pour éviter que l'application de la boucle administrative ne pose des problèmes subséquents. Et puis on peut évaluer l'application de la boucle administrative, l'intégration de la boucle administrative par rapport au droit hollandais. Alors forcément, on va entendre Madame de Moor dans quelques instants, et elle va certainement nous donner des éléments de comparaison plus fins que ceux que je peux vous donner maintenant, mais c'est clair que, d'après moi, a priori en tout cas, il y a des similitudes avec le système hollandais, mais il y a aussi des différences qu'il faut souligner. Alors les comparaisons avec le droit hollandais en termes de similitude, c'est que l'objet de la boucle, c'est certainement une correction de certains vices par le mécanisme qui est mis en place à l'aide d'un certain encadrement de l'action administrative par le juge administratif. Les objectifs de finalité et d'efficacité qui sont poursuivis en droit hollandais sont certainement poursuivis à l'occasion de la réforme du Conseil d'État. Mais à part ça, il me semble qu'il y a des différences techniques qui sont très importantes et qui vont avoir des implications sur la manière dont la boucle administrative va être mise en œuvre ultérieurement en Belgique et qui doivent peut-être être prises en compte lorsqu'on essaye d'appliquer ou de transplanter la boucle administrative hollandaise. Alors tout d'abord, la place de la boucle administrative en Belgique dans l'appareil des compétences qui viennent d'être élargies du Conseil d'État ne me paraît pas tout à fait être la même, en tout cas pas tout à fait claire. En droit hollandais, si j'ai bien compris, l'application de la boucle hollandaise, la boucle administrative, pardon, est une compétence par défaut lorsque toutes les autres solutions ont été épuisées ou ne sont pas possibles, alors qu'en Belgique, le lien avec les autres compétences n'a pas été clairement établi, en tout cas pas dans le texte de la loi. Ensuite, le délai clairement identifié en Belgique, les 3 mois plus un petit assouplissement, le législateur est quand même très précis, c'est 3 mois qui est la règle, alors qu'en droit hollandais, vous n'allez pas avoir une indication de délai. La rapidité du processus de la boucle administrative a été soulignée et est déjà encadrée en droit belge. La troisième différence technique, c'est la conséquence que la boucle administrative peut avoir. En Belgique, normalement, elle ne peut pas avoir d'incidence sur le contenu de l'acte, alors qu'en Hollande, il peut y avoir toutes sortes de conséquences sur le contenu de l'acte qui sont très sophistiquées, qui permettent une flexibilité de l'application du mécanisme de la boucle administrative, peut-être aussi une certaine complexité. Et donc, le droit belge a essayé de simplifier le mécanisme de la boucle administrative, mais la question qui me semble apparaître, c'est savoir si cette simplification ne fait pas perdre au mécanisme de la boucle administrative sa créativité et peut-être la manière dont elle peut amener à la finalité des décisions. Alors le rapport qui se noue entre le juge et l'administration, c'est une quatrième différence qui me semble apparaître en Belgique par rapport au droit hollandais. En effet, en Belgique, il y a très clairement une condition de collaboration de la part de l'administration. C'est vrai que l'article 38 précise que le Conseil d'État peut charger l'administration, donc il y a une mission qui est confiée par le Conseil d'État, mais l'administration doit être positive par rapport à l'application du mécanisme. Le Conseil d'État, dans son arrêt interlocutoire, va encadrer la manière dont la correction va devoir avoir lieu. Mais qu'est-ce qui se passe si, avec cette collaboration que l'administration manifestait, elle ne corrige que partiellement le vice qui a été indiqué par le Conseil d'État? Est-ce que le Conseil d'État va retomber dans ce qu'on lui reprochait auparavant, une approche trop légaliste, et va quand même annuler l'acte? Ou au contraire, parce qu'il y a eu cette application de la boucle administrative en Belgique, le Conseil d'État va dire, ben voilà, l'administration a bien voulu collaborer, moi aussi je me montre positif et je laisse passer le vice partiellement corrigé. Peut-être que la question ne se posera pas selon les affaires qui sont soumises, mais peut-être que la question se posera en pratique, et toujours le Conseil d'État ici en Belgique ne pourra que annuler ou rejeter la requête. Il n'aura pas une flexibilité dans le type de décision qu'il peut prendre. Alors qu'en Hollande, c'est tout à fait différent. Le juge peut enjoindre à l'administration de procéder à la boucle administrative, et le juge administratif, ayant toute une palette d'instruments qu'il peut utiliser lors de la boucle administrative, peut finalement rédiger l'acte ou prendre un acte à la place de l'administration, si j'ai bien compris le mécanisme. Et donc le juge administratif hollandais va être plus interventionniste dans l'application de la boucle administrative a priori. Ensuite, la procédure est beaucoup plus simple en Belgique qu'elle ne peut l'être en droit hollandais, notamment parce qu'en Belgique, normalement, on va pouvoir appliquer la boucle administrative qu'une fois, on ne va pas pouvoir la répéter, par exemple. Donc il y a de nouveau cette idée de simplification de la procédure, mais peut-être aussi une perte en termes de créativité de la part du juge administratif. Et peut-être qu'en droit belge, on ne souhaite pas que le juge administratif se montre créatif. Alors, aussi, on voit que il y a l'efficacité de la procédure est fortement mise en avant, mais quand on parle d'efficacité, d'après ce que je comprends en tout cas de la procédure et des conditions qui sont mises en place, on parle d'efficacité en termes de rapidité, au fait que le temps soit très fortement encadré et qu'il y ait une décision rapide, alors que l'efficacité pourrait éventuellement se concevoir de manière plus globale que simplement une appréciation temporelle. Et donc, je pense qu'on peut voir que dans les différentes techniques de la loi encadrant la boucle administrative, on n'a pas simplement opéré une sorte d'opération de détachement chirurgical de la boucle administrative hollandaise pour la greffer de manière tout aussi chirurgicale sur un système qui est différent. C'est sans doute assez difficile de pouvoir opérer de cette manière pour amener dans un système étranger les notions d'efficacité ou de finalité. Mais ce qui se passe sans doute, c'est que lorsqu'on opère ce type de transplantation d'une institution juridique d'un ordre juridique à un autre, il y a normalement une sorte de réflexion qui doit se faire sur le contexte administratif, politique, social dans lequel l'institution est née, évolue, a été appliquée, s'est perfectionnée au fil du temps et pas simplement une appréciation purement technique et détachée du contexte de l'institution pour essayer de voir comment on peut acclimater le transplant de la manière la plus appropriée à notre système juridique. Et lorsqu'on regarde les travaux préparatoires ou les travaux, les réflexions qui sont antérieures à la réforme de 2014, ce n'est pas très clair pour moi où cette réflexion sur le système dans son ensemble a été opérée. Alors certes, elle a été opérée dans les réflexions du Parlement flamand que je vous indiquais préalablement. En tout cas, le professeur Bax, dans son intervention, mettait en avant notamment le fait que toute amélioration de la procédure administrative passait notamment par une redéfinition du rôle du citoyen qui devrait peut-être se montrer très plus constructif ou compréhensif par rapport aux impératifs de l'administration. Madame Beck, dans son rapport, a aussi mis en avant le fait que l'apport de la boucle administrative redéfinirait le rôle du juge administratif. Mais lorsqu'on regarde les travaux préparatoires de la loi, à mon sens, on voit qu'il y a des renvois aux dispositions de la loi pertinente en Hollande de manière tout à fait textuelle. Le dispositif de la loi est repris et cité entre guillemets, etc. Il n'y a pas du tout d'appréciation critique, d'évaluation de la boucle administrative telle qu'elles ont été effectuées en Hollande qui sont discutées. Je crois qu'à un certain moment, un peu de doctrine a été joint aux travaux préparatoires, mais c'est de la doctrine relativement descriptive de l'institution. Il n'y a pas eu de prise en considération des critiques qui auraient pu être émises, critiques d'ailleurs positives ou négatives, mais une réflexion sur l'application de la loi hollandaise en Hollande. Et de manière assez étonnante, en tout cas intéressante, le dispositif de la loi hollandaise est à certains moments mis en parallèle avec les solutions françaises. Alors c'est vrai, pas pour la boucle administrative en tant que telle, mais d'autres aspects de la réforme, notamment la modulation des effets des arrêts du Conseil d'État. C'est un mécanisme qui existe en Hollande mais qui existe en France, et les travaux préparatoires mettent en parallèle les solutions avec cette remarque peut-être assez intéressante, c'est que en France, c'est le Conseil d'État qui a fait évoluer la solution de droit, et à aucun moment on ne se pose la question dans les travaux préparatoires pourquoi notre Conseil d'État belge n'aurait pas également pu faire écho à ce genre de jurisprudence. Donc il n'y a pas eu de réflexion sur pourquoi est-ce que nous sommes dans un système juridique différent par rapport au système français, mais on voit qu'il existe des solutions, on a l'impression qu'il y a une convergence dans ces solutions, et donc on estime que nous devrions converger de la même manière, ce qui peut tout à fait se justifier en termes de solutions, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'expliciter, d'articuler les raisons, le raisonnement derrière ce souhait de convergence. Et donc, j'ai l'impression que ce type d'approche de droit comparé et de transplantation peut être révélateur de notre système juridique ou de notre absence de culture juridique bien définie. Il n'existe pas un réel discours sur les relations entre l'État, l'administration et les citoyens. En tout cas, pas de discours différent de celui de la régionalisation ou de la fédéralisation. Notre système, finalement, est une sorte de compromis politique. On sait qu'il y a une certaine tendance vers le droit hollandais, une certaine fraction de la population plus francophone. Donc, on met dans la même loi des ingrédients des deux cultures et finalement, on obtient une sorte de compromis politique qui devrait expliquer la solution telle qu'elle a été retenue à la fin. Alors, ce type de questionnement ou de réflexion amène peut-être à se dire qu'au-delà de l'efficacité et de la complexité, on se trouve devant des problèmes juridiques qui touchent au type de justice administrative que l'on souhaite développer. On voit que la boucle administrative, dans sa technicité, touche au principe de séparation des pouvoirs et interroge le pouvoir que le juge administratif peut avoir par rapport à son administration. On voit qu'on veut donner un petit peu plus de pouvoir au juge administratif, mais surtout, on ne souhaite pas lui en donner trop. On voit que c'est uniquement pour des vices finalement assez minimes que la boucle administrative devrait pouvoir être utilisée. Il faut une collaboration de l'administration, donc il faut que l'administration finalement accepte qu'il y ait eu un vice et se montre déjà prête à enclencher la correction. Donc il y a sans doute peut-être une volonté de revoir le rapport qui existe entre le juge et l'administration, mais il n'y a pas nécessairement de réflexion excessivement conceptualisée sur cette relation entre le juge et l'administration. Et puis finalement, il y a le fait que le problème de base tel qu'il a été souligné dans les travaux préparatoires, donc les affaires du type de trame de Weinegame et des problèmes de procédure consultative qui n'auraient pas été correctement appliqués dans le cadre de projets d'infrastructure, n'est pas résolu par le mécanisme de la boucle administrative. Donc finalement, le problème de base tel qu'il a été identifié dans les travaux préparatoires reste entier, et il faudra sans doute trouver des solutions qui dépassent donc le cadre de la boucle administrative telle qu'elle a été mise en place actuellement. Alors est-ce que la question c'est de savoir si on peut développer, approfondir le mécanisme de la boucle administrative pour couvrir ces problèmes. Ça c'est quelque chose que l'avenir dira, ou peut-être. Alors, comme je vous montre, peut-être un peu critique par rapport à la transplantation de la boucle administrative hollandaise, je souhaitais juste apporter une petite touche qui est exotique. Enfin, Monsieur Soyer vient d'expliquer que je travaille en Angleterre, mais ce qui peut être intéressant, c'est pas de trouver une solution en Angleterre. Forcément, le système anglais est extrêmement administratif anglais, de justice administrative est excessivement différent, et on ne peut pas comparer des pommes et des poires, je suppose. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que alors que les deux systèmes sont extrêmement différents, le système anglais et le système belge, il y a exactement les mêmes problèmes qui se posent en termes de procédures participatives et d'établissement de projets d'infrastructure importants. Depuis 2 ans au moins, le ministre de la Justice anglais essaie d'obtenir une réforme du Judicial Review, qui serait donc une sorte de contrôle de l'administration par le juge. Et exactement les mêmes problèmes d'infrastructures et de délai dans la réalisation des projets est mis en avant. Donc, le problème est le même dans des systèmes distincts. Et une des réponses qui a été donnée très récemment dans une affaire justement de High Speed 2, c'est un projet d'infrastructure monumentale qui va se développer sur les 20 prochaines années et qui correspond à un investissement de 45 à 50 milliards de pounds et qui devrait relier par une sorte de TGV Londres, Birmingham, Manchester et l'Écosse, si l'Écosse est toujours dans le Royaume-Uni. Et toute minute passée à réfléchir sur ce projet coûte cher au gouvernement anglais. Et comme ce sont des projets d'infrastructure, certains groupes d'action environnementale s'opposent au projet et a donc introduit une action devant le juge pour contester la non-application d'une directive européenne en matière de respect de l'évaluation des incidences. L'affaire a été jugée par la Cour suprême anglaise il y a quelques mois, et la réponse de la Cour suprême, c'est vraiment non, je ne vais pas poser une question préjudicielle à la Cour de justice parce que je veux donner la priorité au droit constitutionnel et au droit public anglais. Et la raison fondamentale, pratique, qui se trouve derrière le jugement, c'est le fait que poser une question préjudicielle à la Cour de justice va ralentir le projet et, pour des raisons budgétaires et sociales et politiques, etc., ce type de retard dans le projet n'est pas acceptable. Et donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est la proximité des problèmes, le type de réponse qui est donnée en Angleterre. Est-ce que c'est vraiment ce type de relation que l'on veut qui se crée entre le juge et l'administration en raison du problème fondamental qui, sans doute, n'a pas été résolu avec le mécanisme de la boucle administrative? Je ne sais pas, mais peut-être que écouter ce qui se dit en Hollande est un moyen d'essayer de voir si enfin, dans quelle mesure la boucle administrative nous permet de réfléchir au type de juge administratif que l'on souhaite avoir. Est-ce qu'on souhaite un juge proche du citoyen, à un niveau régional, à un niveau national, ou un juge qui finalement serait plus européen? Mais peut-être que justement ce type de question se pose aussi en Hollande et qu'on peut aussi s'inspirer de ces réflexions-là pour notre compréhension du futur de la justice administrative belge. Je vous remercie.